Merci. J'aurais deux petites questions. D'abord, sur la contractualisation que vous avez montrée, j'aurais juste voulu comprendre qui pilotait cette contractualisation. Est-ce que c'est vous, en tant que maître référent, maître d'appui, qui finalement est responsable de ceci, ou est-ce que c'est le chef d'établissement qui s'en occupe? Puis l'autre question, si j'ai bien compris, vous êtes enseignant au collège, au départ en tout cas, et si j'ai bien compris également, vous avez travaillé avec des petits de 4 ans. Alors, ma question est, quel est le retour au niveau des équipes de cette mixification, je pourrais dire, en tout cas de votre travail dans un contexte que vous ne connaissiez pas, et peut-être à l'inverse, comment est-ce que ça peut être travaillé ceci pour que, j'imagine, les professionnels se comprennent mieux et comprennent mieux leur travail réciproque? Est-ce que ça, c'est objet de travail chez vous?
Alors, sur la première question, donc le pilotage de la contractualisation, c'est bien moi. Bon, évidemment, tous les documents que je mets au point, ils sont soumis à l'inspectrice, ils sont soumis au pilote, y compris même à l'IA IPR référent, puisqu'on a un IA IPR qui suit le réseau, qui est référent du réseau. Donc tout ça, c'est, validé en comité exécutif. Voilà. Mais c'est vraiment moi qui ai la main là-dessus. Voilà. Alors ensuite, sur la réponse va être un petit peu plus difficile sur la deuxième question. C'était effectivement, je suis venu travailler sur le premier degré jusqu'en grande section, même avec un fort implication sur les grandes sections et encore maintenant. C'était un choix partagé à l'époque avec l'inspectrice de circonscription de l'époque là qui est partie et puis moi-même, c'est-à-dire que j'étais déjà persuadé qu'il fallait qu'il y avait sans doute des choses qui jouaient dès la maternelle. Bon, ça je dirais que j'ai pas attendu d'y aller pour le savoir puisque j'avais déjà des lectures là-dessus. Après, comment ça s'est utilisé, puisque c'est ça la question dans le pilotage, hein, un petit peu. Oui, alors ça amène richesse avec certaines limites et puis une certaine évolution aussi. C'est-à-dire que moi, ce qui me semblait intéressant au départ, c'était justement d'avoir ce débat pédagogique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très vite, j'ai vu un petit déséquilibre. Alors entre moi, parce que j'étais ancien sur le réseau, que j'avais déjà une expérience, que j'avais aussi cette petite étiquette formateur, et puis les enseignants. Donc ça m'a plutôt déplu, d'où les problèmes que j'ai rencontrés après, je dirais, parfois de discours à sens unique. Donc ça commence un petit peu à s'équilibrer, c'est-à-dire qu'on commence à trouver un petit peu de débat pédagogique. On s'engueule pas encore, hein, mais ça c'était pour petit clin d'œil à Yves Clos, mais effectivement, c'est ce que je souhaiterais aussi. C'est plutôt bien vu. Moi, ce qui me dérangeait, c'est un petit peu ce qui m'a dérangé. C'était un petit peu ce côté des collègues du premier degré qui se mettaient parfois en infériorité par rapport à quelqu'un du second degré. Voilà. Mais c'est... Voilà, c'est un problème, je pense, qui n'est pas que sur le réseau, que je ressens. Voilà. C'est-à-dire que ça a été plus difficile pour mes collègues du premier degré de s'imposer dans le second degré. Pendant 3 ans, j'ai eu même comme partenaire une jeune collègue, donc qui n'avait pas le profil initial pour être prof d'appui, et qui se trouve qui a très très bien fait l'affaire et qui a acquis énormément de compétences en très très peu de temps. Au bout de la première année, il y a encore des collègues qui pensaient qu'elle était assistante pédagogique. Voilà. Alors après, pour répondre peut-être plus précisément, je trouve que ça a quand même apporté de la richesse. Et on a réussi à dépasser, je dirais, ce qu'on faisait avant d'avoir ces échanges, je dirais, de service premier second degré sur les banals stages interdegrés.
Juste, moi je suis coordonnateur de réseau réussite scolaire, donc on n'a pas les professeurs surnuméraires. Alors apparemment vous avez un professeur d'appui qui est un autre terme. Ici je pense qu'on utilise plutôt professeur surnuméraire. Et je me demandais, dans votre projet, si vous êtes vous-même le coordonnateur ou s'il y a encore un coordonnateur, ce qu'on appelle maintenant un secrétaire de réseau.
Oui, alors il y a un coordonnateur qui est aussi secrétaire de réseau, enfin une coordonnatrice. Donc voilà. Alors, là, c'est intéressant, la question, parce que le... c'est... Ouais, c'est très intéressant parce que le coordonnateur, il est censé faire l'organisationnel, voilà, et que la frontière entre l'organisationnel, je dirais, et le pédagogique, elle est pas si nette que ça. Donc on a des jeux de va-et-vient, c'est-à-dire que au tout début, c'était moi qui faisais tout, quoi. Je dirais l'organisationnel, et puis pédagogique avec ma collègue bien sûr, et puis à un moment on s'est dit non, ça fait beaucoup trop, il y a eu une reprise en main du coordonnateur, et puis là je viens de changer de mode d'action, et la coordonnatrice qui est extrêmement volontaire avec qui je travaille main dans la main, je veux dire, s'est aperçue qu'elle pouvait pas prendre en charge maintenant l'organisationnel. Donc il fallait que pour démarrer, il fallait que moi je le prenne en charge. Voilà, donc c'est assez compliqué et en même temps c'est intéressant parce que il y a une réflexion actuellement de la coordinatrice, se dire bah oui mais moi faut que je vienne un peu sur le terrain pédagogique. Voilà. Je sais pas si elle se rend compte que elle peut pas la coordinatrice donc se rend compte qu'elle ne peut pas, je veux dire, faire efficacement l'organisationnel si elle vient pas un petit peu sur le terrain pédagogique. Et ça provoque des discussions assez vives entre les cordeaux départementaux et académiques lorsqu'ils se retrouvent en réunion, parce qu'elle dit, ben non, mais moi je m'implique dans le pédagogique. Et les autres lui disent, mais c'est pas ton boulot. Voilà.
Oui, moi je voudrais un peu généraliser la question, parce qu'il y a des pratiques très diverses. C'est ce qu'on avait constaté à l'OZP lorsqu'on a organisé un séminaire des cordeaux il y a déjà quelques années. C'est ce que moi, comme inspecteur général, je constate effectivement dans mes missions d'audit sur le terrain. La définition officielle, disons, des missions et des tâches des cordeaux secrétaires de réseau, effectivement, est très succincte. Hein, et ça autorise, en fonction, disons, des personnalités, des parcours, des relations avec les pilotes, les deux pilotes des réseaux, etc., ça autorise beaucoup d'adaptation et de souplesse hein, selon les souhaits des uns et des autres. Mais il y a quand même, semble-t-il, une dominante. Alors c'est peut-être pas dans le cas que vous avez en tête, mais dans la plupart, disons, des réseaux, qu'ils soient Éclair ou RRS, les cordeaux sont surtout chargés, disons, à la fois de la continuité interdegré, c'est-à-dire des différentes formes de liaison école-collège, et également, et ça peut être plus en Éclair qu'en RRS, des actions partenariales, c'est-à-dire de la liaison avec la collectivité locale, voisine, avec les associations, donc qui sont relativement tournés vers l'extérieur, d'une part, hein, vers... les autres formes de scolarisation, ils sont relativement peu, c'est vrai, sur les aspects directement pédagogiques. Mais encore une fois, ça dépend du profil et des parcours de chacun.
D'où la question de tous ces métiers intermédiaires qui n'ont pas toujours d'histoire. Et c'est en se construisant qu'ils forgent leur histoire. Et c'est très difficile pour les personnes de travailler sans avoir l'appui sur l'histoire du métier, même pour la dépasser. Mais quand il n'y a pas d'histoire... On a l'impression que c'est simplement les individus qui sont en train de constituer l'histoire sans genre professionnel, pour reprendre les mots de l'analyse du travail. D'autres réactions à cette présentation ?
Par rapport à la fonction de l'IEN dans le pilotage et dans les choix qui ont été faits au point de départ et qui ont évolué maintenant, hein, par rapport au choix de faire du travail massé avec ce dispositif externe à la classe, j'aurais aimé savoir comment se sont dégagées ces priorités. Est-ce que c'est uniquement à l'issue des évaluations et donc ça a donné ce que ça a donné, et qu'est-ce qui fait que du coup, et comment accepter ce pilote d'évoluer, et est-ce qu'elle a évolué dans sa manière de définir les priorités pour engager un travail précis avec le réseau?
Je compléterai d'une autre façon la question. Est-ce que c'est en fait l'inspecteur qui a dit, bah, on sait aujourd'hui que c'est ça l'essentiel de l'efficacité? Est-ce que c'est toi, en fonction de ce que tu as apporté? Est-ce que c'est le fruit de l'histoire de ce réseau où, à Chanteloup, ça fait longtemps que, parce qu'on connaît les Maclés, aux Oulias, etc. Enfin, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive plutôt à ces priorités-là plutôt que d'autres?
Alors, c'était ça, là, que tu souhaitais remettre?
Il y a le dispositif Maclé, que je ne sais pas si tout le monde connaît, mais... En gros, tu l'as bien défini, donc on peut y revenir. Mais après, toutes les priorités sur, on centre plutôt sur ce type de priorité, sur l'intraclasse plutôt que sur l'extraclasse. Enfin, voilà, tout un tas de choses que tu as présentées comme étant, par rapport à ce qu'on a regardé, alors hier soir, mais tu n'étais pas là, on a bien vu que dans les contrats de réussite des différents réseaux, on retrouvait ce que tu disais, c'est-à-dire des projets qui n'en étaient pas toujours... et qui était plus un conglomérat d'objectifs plus ou moins en concurrence les uns avec les autres qu'une centration sur un cœur de métier et de difficultés.
Alors, pour répondre à la question, là, moi, je la trouve intéressante parce qu'effectivement, là, par exemple, je prends les modules CE. Pendant 3 ans, ces modules CE ont été sur la compréhension. Et puis, on a eu des évaluations assez catastrophiques au niveau, je crois, CE1, je ne sais plus, enfin, catastrophiques, peut-être pas tant que ça d'ailleurs, mais en tout cas, sur certains champs, pas brillantes. On a eu ce basculement. Et c'est assez marrant parce que sur mes 18 ans de ZEP, j'ai toujours vu ce va-et-vient entre français et maths. C'est-à-dire que je pense que c'est une constante, hein, sur le réseau. C'est-à-dire d'un inspecteur qui arrive en disant « Ah, va falloir qu'on mette le paquet sur les maths. » Et ça marche. On voit des résultats. Et qu'est-ce qu'on voit au bout de 3 ans? Ça baisse en français. Vase communicant. Donc là aussi, il y a un moment au moins où j'ai suivi les prescriptions de l'inspectrice. C'est-à-dire en disant « Bah voilà, on fait ça, on fait ça. » On a quand même à maudit un peu les choses. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait sur les opérations, je dis, écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à apporter sur les opérations. Je veux bien faire un module sur les opérations, sur les techniques opératoires, mais enfin, on n'avait pas, on n'avait pas de ressources là-dessus. Donc, on a réussi à un petit peu déjà infléchir sur les choix. Donc, il y a un partenariat, une discussion qui s'engage. Et cette question des vases communicants. Je veux dire, elle a été vive l'année dernière, en disant, faut peut-être dépasser ça. C'est-à-dire que il y a bien la question là-dedans de savoir où est-ce qu'on peut, apporter un appui, et pas forcément, sur des contenus précis, mais aussi un appui pédagogique aux enseignants et rentrer sur les questions du métier. Donc là, il y a vraiment un changement de stratégie. Et de vision des choses, de stratégie, mais aussi de point de vue. C'est-à-dire que on a un point de vue qui adopte moins, la question des contenus et des évaluations nationales, qui nous inciterait, à aller dans cette logique qu'on a connue jusqu'ici de vase communicant français maths, et plutôt de dire on a peut-être des soucis. Qui sont plus centrés dans certaines classes, c'est-à-dire de sortir aussi de cette vision, on va dire, macro au niveau de la circonscription, parce que c'est des évaluations ou du réseau, des évaluations de circo ou de réseau, et de regarder aussi ce qui se passe dans les classes. Voilà. Donc il y a un changement de focale et un changement de point de vue, il me semble. Je ne sais pas si je réponds à la question là, oui.
En tout cas, la centration, elle a été assez forte dans ton explicitation. En tout cas, moi, je l'ai entendu comme telle. La centration de l'essentiel du projet de réseau, c'est qu'on discute ensemble de ce qui se passe à l'intérieur des classes.
Oui.
Et avec une question qui est la question posée que tu as redit fortement, mais en tout cas qui me parle, moi, dans l'expérience que j'ai des territoires d'éducation prioritaire, c'est à quelles conditions ce qu'on a été en capable de réussir dans ce qu'on a été... en capacité de réussir dans des modules de soutien, par exemple sur l'explicitation des procédures, quand on se retrouve dans un cadre différent, par exemple qui est celui de la classe, comment, et on l'a bien vu dans la séance de travail qu'on a fait hier sur ces questions-là, comment c'est difficile de mener en grand groupe et en groupe classe des choses qu'on arrive à mener en petit groupe. Et donc cette question-là, qui est une question professionnelle, éminemment complexe à résoudre, mais en tout cas, vous vous dites déjà on l'a au cœur de notre objet de préoccupation, ce qui est déjà un changement par rapport à la période où le contrat, le travail collectif, c'était essentiellement sur le périphérique de l'activité éducative et pédagogique. Il me semble que ça, c'est le renversement de posture que tu décris, en plus de l'autre renversement de posture qui est, si on veut que les gens se forment, encore faut-il qu'on regarde leur travail avec un peu plus d'empathie et un peu plus de pouvoir pour eux de dire voilà pourquoi je fais comme ça. Et j'insiste, quand tu dis je fais comme je peux, personnellement, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans les entretiens d'autoconfrontation. Comment tu fais pour ça ? Comme je peux, mon garçon.
Moi, j'aurais une petite question. On voit bien votre impact sur le premier degré. Et est-ce que sur le second degré, les collègues de collège font appel à vos services en tant que professeur d'appui ? Et si éventuellement, vous pouvez développer quelque chose de similaire ou au contraire, c'est pas encore rentré dans les habitudes professionnelles ou...
Alors, on a les mêmes problématiques sur le second degré. Et donc, là, j'ai par exemple une forte demande de ma principale adjointe pour avoir le même type de réflexion. C'est-à-dire que là, j'ai pas détaillé, parce que, bon, voilà, mais ça sera sur le. C'était quand même sur le diaporama. J'ai pas détaillé, en fait, les modalités d'action du second degré. Pour faire vite, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est des heures de pôle. Donc, par exemple, on va aligner toutes les classes. Donc, toutes les sixièmes sont alignées, toutes les cinquièmes, toutes les quatrièmes sur certains horaires. Et on a avec des alignements de matière aussi. Donc, imaginons que la sixième 1 a français l'après-midi, pendant que la sixième 2 a histoire, pendant que la sixième 3 a français, pendant que la sixième 4 a histoire. Ça permet de regrouper toutes les classes, à certains moments, de déclencher ce qu'on appelle les pôles et de mettre en place des groupes de compétences. Donc c'est quelque chose d'assez similaire à ce qui se passe dans le premier degré et avec les mêmes problématiques. C'est-à-dire que des gamins qu'on arrive à mettre au travail assez facilement, je dirais, lorsqu'ils sont en groupe de compétences, parce qu'on a détaillé, je dirais, à la fois les objectifs, le modus operandi et puis voilà, et tout le reste, les gestes pédagogiques, les gestes professionnels qui vont avec, et puis après, il faut retourner en classe, et ce qui fait l'essentiel de l'apprentissage, c'est bien la classe. Donc, même problématique de transfert, donc avec déjà des interrogations sur l'idée que, voilà, les pratiques, pour autant qu'elles doivent être modifiées, autant qu'elle soit modifiable, je veux dire, on n'a pas vraiment d'impact là-dessus, je veux dire, sur les pratiques de tous les jours. Donc, il y a des choses qu'on voit, hein, parce que on voit des changements sur les jeunes professeurs. On sait bien qu'au bout de 5 ans à peu près, hein, c'est ce que disent les ergonomes, hein, les pratiques deviennent stables et cohérentes. Voilà, stables et cohérentes. Avec les jeunes collègues, c'est beaucoup plus simple. Voilà, pas toujours. Donc il y a ce même questionnement, c'est-à-dire que de se dire comment on va faire. Et l'idée, c'est de faire ensemble. Donc on a travaillé, c'est pour ça que je commence à travailler les problématiques de co-animation. J'ai pris là pour ça le schéma de Dominique Bucheton. C'est-à-dire déjà, comment avec ce multi-agenda, on peut situer la co-animation, qui est un vrai problème. Hein. C'est-à-dire que pour avoir vu faire des collègues avec un assistant pédagogique, on voit deux personnes qui se marchent sur les pieds. Voilà. Alors que on voit bien que dans son modèle, là où il y a le tissage, où il y a l'ambiance, l'étayage, l'objet de savoir et tout ça, je veux dire, on peut bien distinguer les tâches des uns et des autres. Pareil, quand moi, je viens les soutenir. Alors ça, c'est quelque chose que je fais, par exemple, avec une collègue de mathématiques en troisième. Alors, pourquoi pas co-enseignement ? Parce que je ne peux pas être présent tout le temps. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une question d'emploi du temps, quoi, qui est vraiment difficile. Donc là, on est sur des co-animations, mais qui sont sur des moments précis. C'est-à-dire qu'une collègue de mathématiques va dire, voilà, là, j'ai un vrai problème pour mettre en place des situations d'apprentissage, hein, sur les statistiques. Voilà, est-ce que tu peux venir me donner un coup de main ? Donc là, il y a quand même de la co-préparation. Hein, c'est-à-dire c'est peut-être ça que vous appelez co-enseignement finalement. Oui, c'est ça. Donc là, pour le coup, il y a aussi parfois du co-enseignement, d'accord. Alors là, on définit les postures à l'avance. Voilà. Donc il y a un jeu de posture, effectivement, entre l'enseignant de la classe, donc ma collègue, et puis moi qui suis professeur d'appui, effectivement, qui se négocie en amont. Mais voilà, maintenant, je peux citer le cas d'une collègue, quoi. C'est pas quelque chose qui est diffusé, je veux dire, largement sur le collège. Et c'est à ça les assistants pédagogiques. Hein, c'est comme ça, c'est-à-dire que bien souvent, il y a une tendance. Hein, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on se bat vraiment. Enfin, sur lequel je me bats. Une des très grosses tendances, si vous voulez, il faut vraiment y veiller, qu'on a de certains collègues, c'est par exemple d'utiliser un assistant pédagogique en disant tiens, tu vas me prendre ces élèves-là et tu vas aller ailleurs. Alors, on devine à peu près le profil des élèves qui vont ailleurs. Hein ? Voilà, c'est ça. Celles qui ont des petits cols blancs, et voilà. Et c'est exactement ça. Donc là, ça a été source de conflit. Voilà. Pour le coup, je crois que Dominique Bucheton m'a été d'un bon secours là-dessus, je veux dire son modèle théorique, parce que ça a permis un petit peu de théoriser les choses, de clarifier. J'en suis qu'au début, hein, parce que j'ai pas encore fait le travail sur les vidéos, qui me paraît intéressant pour compléter, je dirais, ce modèle théorique du multi-agenda. Mais ça a permis un petit peu, en tout cas cette année, de clarifier les rôles de chacun. Les rôles possibles de chacun, hein, en tout cas les rôles et les postures de chacun, lorsqu'on était en co-animation. Et surtout de favoriser la co-animation au détriment, j'irais, de l'externalisation des problématiques d'apprentissage, qui plus est avec des personnes pas compétentes ou pas suffisamment formées.
Et en me donnant le micro, Patrick m'a demandé de garder après pour prendre la suite. Moi, j'avais une question très courte sur quelque chose qui pourrait paraître anecdotique, mais qui m'intéresse beaucoup. C'est l'histoire de... C'est quoi ce module de CM2 sur le rapport aux apprentissages? En quelques mots, ça recouvre quoi? Qu'est-ce qui est traité, abordé, travaillé avec les élèves?
Alors, oui, question intéressante, parce que je l'ai abandonné. C'était à l'initiative d'une de mes anciennes collègues. C'était un module très intéressant qui était... Bon, en fait, à l'initiative, non. Une de mes anciennes collègues qui était... initialement maîtresse E, quelqu'un d'extrêmement compétent et avec une culture pédagogique assez énorme et qui m'a beaucoup apporté, et de l'inspectrice de circonscription. Donc l'idée, c'était un petit peu de projeter les élèves dans leurs apprentissages. Donc il y avait un travail sur les intelligences multiples de Gardner, par exemple. Il y avait aussi un travail sur la métacognition, par rapport à, et qu'on mettait en œuvre avec la narration de recherche en mathématiques, et puis les outils de Guagouseb sur la compréhension. Voilà. Donc c'était assez ambitieux. Pourquoi c'est abandonné? Tout simplement parce que c'était un travail qui se voulait être qui était sur les premières semaines de l'année et qui devait être, je dirais, qui devait être poursuivi par les enseignants dans leur classe. Ça n'a pas été le cas, je veux dire, à part une exception, c'est-à-dire que sur les 4 CM2 sur lesquels on a travaillé, il y a un CM2 sur lesquels le travail a été fait tel qu'on l'avait initié. Donc voilà, une des problématiques des modules qu'on a, c'est que si je dirais en amont ou en aval du module, il n'y a pas de cohérence avec le travail de l'enseignant, on voit que l'efficience est quand même fortement, enfin je veux dire même l'efficacité tout simplement est fortement réduite.